BFM Business, midi, leur H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans leur H. On parlera bien sûr des hôpitaux. Est-ce que l'hôpital public est en urgence absolue? Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui. On en parlera avec celui qui est à la tête des cliniques privées, Lamine Garbi. Lamine Garbi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes président de la Fédération de l'hospitalisation privée. On verra si les recettes du privé peuvent s'appublier au public. Qu'est-ce qu'on peut faire en tous les cas pour trouver une solution? On parlera du chômage. Chômage avec une petite remontée surprise. On en parlera avec Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Et puis après, c'est deux femmes, une transmission pour entre deux femmes dans le secteur de la publicité, parce que je recevrai la star de la pub Mercedes Hera, cofondatrice de BETC. Elle transmet en douceur à Bertil Toledano. Mais tout de suite, c'est l'actualité, toute l'actu. Thomas Asportas, bonjour Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et on ouvre ce journal, vous le disiez, avec les derniers chiffres du chômage en France. Et il a légèrement progressé au troisième trimestre de 0,1 point à 8,6% de la population active hors Mayotte. Alors cette légère hausse n'était pas vraiment attendue, hein, après plusieurs trimestres de baisse d'affilée. Et la France compte donc 10 000 nouveaux chômeurs. Et puis l'autre chiffre qui était particulièrement attendu aujourd'hui, c'est bien sûr la croissance allemande au troisième trimestre. Et l'Allemagne échappe de justesse à la récession, plus 0,1% de croissance, et c'est avant tout grâce à la consommation. L'Allemagne est donc repassée dans le vert après la contraction du deuxième trimestre, qui elle a été revue à la hausse, hein, à moins 0,2% au lieu de moins 0,1%. A noter par ailleurs que la croissance en zone euro est confirmée à 0,2% au troisième trimestre. Et puis on a une nouvelle fois la preuve des difficultés de l'économie chinoise avec plusieurs indicateurs mal orientés. La production industrielle n'a progressé que de 4,7% en octobre, très loin des estimations. Les ventes au détail ont augmenté au rythme le plus faible depuis 16 ans et la croissance des investissements dans les actifs immobilisés est tout simplement à un plus bas historique. Retour en France avec la grève des hôpitaux et les médecins donc, qui réclament un plan d'urgence pour l'hôpital public avec plus d'effectifs, d'équipements et de matériel. 40% des services d'urgence sont déjà en grève depuis le mois de mars. Agnès Buzyn doit faire des annonces dans les tout prochains jours. Et puis une autre mobilisation qui fait moins parler aujourd'hui mais qui est quand même à signaler, c'est celle des agents des finances publiques. La DGFiP appelle à la grève contre le projet de restructuration de leur ministre de tutelle, Gérard Darmanin, qui veut décentraliser les services dans les collectivités. 4800 suppressions de postes sont prévues, tout comme la disparition de 1600 trésoreries sur 2000. Jour J pour Thierry Breton, le candidat de la France pour la Commission européenne, est entendu cet après-midi à 13h par les députés européens après être passé de justesse, hein, vous vous en souvenez, avant-hier sur sa déclaration d'intérêt financier avec 12 voix pour et 11 voix contre. Vous pourrez suivre en direct cette audition sur notre site bfmbusiness.com. À noter également que Londres ne nommera pas de commissaire européen avant les élections britanniques du 12 décembre. Dans l'actualité des entreprises, EDF est finalement obligé de revoir à la baisse ses objectifs de production nucléaire pour 2019 après le séisme en Ardèche qui a affecté ses réacteurs sur le site de Cruas. EDF espérait un redémarrage dès demain dans le meilleur des cas, mais finalement ce sera fait progressivement dans la première quinzaine de décembre. Le groupe maintient malgré tout ses objectifs financiers pour 2019 et le chiffre d'affaires a progressé de 3,4% sur les 9 premiers mois de l'année. Et puis pour finir, la situation est toujours aussi difficile chez Daimler. Le constructeur allemand ne donne pas de chiffres, mais il va supprimer des postes partout dans le monde pour économiser 1 milliard d'euros d'ici 2022. Daimler explique ses licenciements à venir par la forte augmentation des coûts pour atteindre les objectifs de réduction d'émissions de CO2. BFM Business, il est midi 3, on va sur les marchés à la mi-journée, je vous donne le CAC. Le CAC qui est pile à l'équilibre à 5906 points, on reste donc au-dessus des 5009. Et l'euro-dollar, c'est un tout petit peu terrain, on abandonne 0,10%, 1 euro s'échange pour 1,0999 $.
Merci Thomas, on vous retrouve bien sûr à 12h30 pour le rappel été dans un instant. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'hôpital public? On en parle avec celui qui est à la tête de la Fédération des hôpitaux privés.
BFM Business, leur H. La question du jour.
Lamine Garbi, merci d'être avec nous. Vous êtes donc président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Vous avez un groupe, vous, dans l'Hérault, une quinzaine, je crois, de cliniques, si vous nous disiez. Lamine Garbi, les blouses blanches sont dans la rue, dans une situation d'urgence absolue. On voit bien que l'hôpital public va mal. Il y a quelques chiffres que j'ai regardés ici ou là. Il y a 900 lits qui ont été supprimés faute de personnel. Il y a 1300 postes de soignants qui sont à pourvoir. Les médecins qui s'en vont dans le privé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes solidaire de ce qui se passe dans le secteur public?
Évidemment qu'on est solidaire. On comprend cette souffrance, mais cette souffrance et ce malaise, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Le précédent quinquennat, il faut quand même expliquer les choses. Le précédent quinquennat a engendré une maltraitance institutionnelle contre les hôpitaux publics, privés et la médecine libérale. Je prends un exemple, 10% de baisse de nos tarifs et budgets sur les 5 dernières années. Donc il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'il y ait des tensions.
Elles sont légitimes. Vous faites allusion à Marisol Touraine qui était très très contre vers le privé en l'occurrence, mais qui soutenait le public.
Non, elle soutenait le public. C'était pareil, le public a eu les mêmes baisses de budget que nous. Donc aujourd'hui, nous sommes en grande difficulté collective. Et c'est vrai que ce qui se passe dans la rue n'est que le reflet de ces époques et de cette politique de santé qui est liée, j'appelle ça de la maltraitance.
Donc aujourd'hui, pour vous, pour être clair, pour aller jusqu'au bout de votre pensée, ça veut dire ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence de ce qu'a fait Marisol Touraine lorsqu'elle était ministre de la Santé sous le quinquennat de François Hollande.
Complètement. Moi, j'estime que ce qui se passe aujourd'hui, et notamment vis-à-vis de Marisol Touraine, était la résultante. Mais par contre, Agnès Buzyn, les critiques à son encontre sont injustes. Pourquoi elles sont injustes ? Parce qu'elle a fait des choses. L'année dernière, elle a augmenté nos tarifs et c'était la première fois depuis 10 ans qu'on avait une revalorisation de nos tarifs. Elle a engendré un plan d'urgence, de sauvetage des urgences. C'est également la première fois. Et surtout, elle a engagé ce qu'on appelle la pluriannualité. Il faut savoir que nos budgets, avant, étaient annuel. Aujourd'hui, on aura une lisibilité sur 3 ans et ça permettra d'avoir une politique sociale et un investissement. On va dans le bon sens, sauf qu'on ne peut pas, c'est un énorme vaisseau, l'hospitalisation publique et privée, on ne peut pas le redresser en 5 mois, 6 mois ou 1 an. Donc il faut, je dirais, se mettre au travail collectivement et essayer de trouver des pistes d'efficience, notamment sur la pertinence des actes, la pertinence des soins, et ça permettra de dégager des marges. C'est important de le dire, il faut soutenir ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on va dans un sens qui est plutôt positif.
Donc vous dites qu'il faut soutenir le plan d'Agnès Buzyn. On attend son plan, hein, en l'occurrence là, pour savoir si elle arrive à négocier face à Bercy.
On demande quoi ? On attend quoi ? On attend que l'ONDAM, c'est un sigle barbare, l'objectif national des assurances maladies, c'est 200 milliards d'euros chaque année, il faudrait qu'il soit réévalué de 4% pour combler l'allongement de l'espérance de vie, de la durée de vie et l'accroissement de la population.
Et en même temps, la Sécu est en déficit. Donc,
Elle est en déficit également parce que la Sécu compense les mesures qui ont été octroyées par le gouvernement sur la politique sociale, notamment suite aux gilets jaunes. C'est vrai que sinon, l'assurance maladie serait en équilibre. Donc, c'est un déficit qui est aussi un affichage et un arbitrage politique. Donc, on demande quoi ? On demande que l'ONDAM aujourd'hui soit réévalué à 2,5. Et on demande que nos budgets, mais publics et privés, on est ensemble, publics et privés, soient réévalués l'année prochaine d'1,5%. Pourquoi ? Pour que l'on puisse avoir une politique sociale, qui soit digne, et que l'on puisse retrouver l'investissement que nous avons perdu. Et ne pas investir dans la santé, c'est paupériser le système, c'est dégrader les conditions de travail, donc il faut absolument que l'on revienne vers une politique, je dirais, ambitieuse et de fierté.
En même temps, on a l'impression que ce sont des énormes mastodontes où il y a énormément de fonctionnaires qui sont là. Il y a eu un moment où on disait qu'il y avait trop de médecins, maintenant on est peut-être passé dans l'excès inverse. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les hôpitaux publics ?
Alors, c'est vrai que c'est paradoxal. On s'est aperçu aujourd'hui que pour soigner les Français, il fallait des médecins.
Oui.
Donc, c'est l'évidence même. Et je ne supporte pas ce médecin bashing, l'hôpital bashing. C'est une destruction du système de santé que je ne peux pas accepter. Donc, il faut retrouver de la confiance. Cette confiance, elle se retrouve par une augmentation de moyens de budget et une lisibilité.
Mais est-ce que ce n'est que ça ? Ou c'est une question d'organisation, peut-être, d'avoir une direction des ressources humaines qui soit, pas efficace, mais qui marche, qui fonctionne ? J'entendais des témoignages d'infirmières qui disent du jour au lendemain, on m'a annoncé que j'étais mutée à 50 km, j'avais rien demandé. Du coup, j'ai démissionné et je suis partie, parce qu'en l'occurrence, ça a été frontalière. Je suis partie en Suisse et puis j'ai un salaire 2 fois plus grand. Non, on se rend compte que la gestion humaine, des ressources humaines, est complètement dingue.
Bien sûr, on est là au service des patients, donc tout est dans l'humain. Nous ne sommes pas une entreprise de production, nous sommes une entreprise de production de qualité, de sécurité des soins. Donc évidemment que ça doit passer par une étude fine des plannings, vous en parliez, de l'organisation du travail, mais également ne pas avoir une volonté de tout détruire. C'est ce que je déplore aujourd'hui. Tout ne va pas mal dans le système de santé.
Mais qui veut tout détruire ?
Mais on le voit bien, il y a un hôpital bashing. C'est pas normal aujourd'hui et ça me désole de voir qu'un des meilleurs systèmes de santé au monde se trouve dégradé aussi par des revendications salariales qui sont légitimes. Je ne dis pas le contraire. Mais je pense que l'on soigne bien en France et qu'un peu d'organisation, un peu de bon sens permettrait d'avoir une fluidité. C'est ce que nous prenons dans nos cliniques. Nous avons une souplesse de fonctionnement que n'a pas peut-être l'hôpital public avec une fonction administrative lourde.
Mais en même temps, lorsqu'on est dans le privé, vous êtes bien placé pour le savoir, Lamine Gharbi, il faut des objectifs de rentabilité. C'est parfois incompatible avec la santé, parce que si vous pouvez soigner quelqu'un qui est très très malade ou qui est très vieux, ça rapporte moins que si vous faites tourner et que s'il y a des actes, une multiplication des actes. Est-ce que c'est compatible, privé, dans le public ?
Bien sûr. Déjà, il faut faire attention aux amalgames. 30% des cliniques sont en déficit. Sur l'année 2019, 12 établissements, 12 cliniques privées ont fermé, ce qui pose des problèmes d'accessibilité et de proximité. Nous ne sommes pas tous à l'équilibre, et effectivement, avoir une rentabilité, ça veut dire équilibrer son budget pour investir. C'est le sens même de l'hospitalisation privée. Et nous ne sélectionnons pas les patients. Nous avons des services d'urgence. 3 millions de patients sont soignés aux urgences privées. On ne le dit pas assez. Lorsque vous venez...
Et justement, vous demandez qu'on double l'accès justement aux urgences du privé, sachant que dans le public, c'est difficile.
Ils sont saturés. 18 millions d'un côté, 3 millions de l'autre. Sur les 120 services d'urgence, ça fait à peu près 50 patients par jour. On pourrait doubler la capacité d'accueil de nos services, très simplement. Parce que nos médecins sont libéraux, parce que nos équipes sont plus souples et plus fluides, on pourrait rendre service. C'est le message que je porte. On tend la main à l'hôpital public. On veut participer aux missions de service public.
C'est une main qui est tendue depuis longtemps. Hein. Ça ne date pas d'hier. Vous êtes d'accord avec moi. Ça veut dire que le public ne veut pas saisir cette main. Pourquoi ? C'est toujours la lutte privée-public ?
Justement, cette main tendue permet d'éviter cette guerre public-privée. Les habitudes sont...
Personne ne la saisit chez vous.
Ah, ça arrive sur les territoires tout de même. Il y a des complémentarités qui se font en public-privé. C'est apaisé. Du moins, c'est apaisé et ça permet de travailler ensemble de fort belle manière. Mais aussi, il ne faut pas s'étonner que le privé ne participe pas aux services d'urgence sur l'ensemble du territoire. 42 départements n'ont pas de services d'urgence privés. Donc, je demande également à la ministre qu'elle libéralise.
Redites-moi ce chiffre.
42 départements sur le territoire n'ont pas d'urgence privée. Il ne faut pas s'étonner qu'on ne soit pas présent sur tous les territoires. Donc, je demande à la ministre d'ouvrir les services d'urgence. Je demande à la ministre de revoir nos budgets. Mais ça va dans le bon sens. Je pense qu'il faut être patient. Il faut se dire qu'on va vers des jours qui seront d'organisation différente. Et ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, bien sûr qu'on est en crise, bien sûr qu'on est en tension, mais ce n'est que la résultante, et je le rappelle, des 10 dernières années, qui était une baisse de tarifs perpétuelle, la politique du rabot.
Est-ce que dans le privé, vous observez une fuite des cerveaux, enfin des médecins, des blouses blanches ?
Non.
Est-ce qu'ils viennent chez vous, non ?
Oui, ils viennent chez nous, mais il y a un équilibre, parce qu'il y a aussi une volonté des médecins d'avoir une activité salariée. Nous, les médecins sont libéraux, donc il y a, je dirais, des vases communicants. Il y a des médecins qui partent de chez nous pour être salariés, pour avoir une qualité de vie différente. Il y a des médecins d'hôpital public qui viennent chez nous. Il y a des vases communicants, mais il ne faut pas penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Nos médecins sont libéraux, ils ont peut-être des rémunérations qui sont facialement plus importantes, mais ils ne sont pas aux 35 heures, et ils sont maîtres de leur activité. C'est-à-dire que s'ils veulent travailler plus, ils travaillent plus. Et vous parlez de la pertinence des actes, nous ne sommes pas là pour multiplier les actes. Cela n'en a aucun intérêt, et nous sommes, je dirais, évalués par la Haute Autorité de Santé. Nous sommes certifiés et la pertinence des actes fait partie de cette certification et de cette évaluation. Donc de dire que le privé multiplie les actes est faux. C'est faux. Par contre,
démystifier peut-être.
Voilà, peut-être on peut travailler sur la redondance des actes. Et c'est vrai que si le dossier médical du patient, le dossier médical partagé, était totalement efficace, mais ça l'est, 10 millions de nos concitoyens ont un dossier médical présent sur la carte vitale. Ça éviterait les actes redondants de biologie, de radiologie, examen complémentaire.
Est-ce que je ne sais pas s'il y a une moyenne de patients, le nombre de soignants, d'infirmières dans le public pour un patient est différent de celui dans le privé ?
On est soumis aux mêmes règles, aux mêmes normes. Donc on a autant d'infirmières et d'aides-soignants dans le public que dans le privé. C'est, je dirais, réglementaire. Il n'y a pas d'échappatoire possible. La seule différence que nous avons, nous, dans le privé, c'est que s'il y a un pic d'activité, on a tout loisir et toute facilité pour augmenter les effectifs. Pour augmenter les effectifs, on colle à l'activité. Ça permet d'avoir une fluidité et d'éviter le surmenage des équipes qui sont à l'hôpital public en effectif constant parce que c'est la lourdeur de la fonction publique. Nous sommes plus souples, plus petits.
Est-ce que les infirmières, c'est le même travail lorsqu'on est dans le privé que dans le public ? Est-ce que c'est plus difficile dans le public ? Est-ce qu'on est moins bien payé ?
Là aussi, idée reçue. Je dirais que malheureusement, la grille indiciaire du public est plus favorable dans le public, dans les hôpitaux, que dans le privé. Alors qu'on pense que c'est le contraire.
Oui.
Donc, il y a un léger décalage, on a un léger retard qu'on espère un jour pouvoir combler grâce à la revalorisation de nos budgets. La différence fondamentale, c'est la rémunération des médecins, où les médecins sont libéraux et ne sont pas salariés. Donc là, il y a un écart, effectivement, et ce qui peut générer un appel d'air. Les fonctions sont les mêmes, un service de chirurgie, que ce soit un service de chirurgie public ou privé, ce sont les mêmes malades, les mêmes patients. Quand vous êtes opéré d'une prothèse de hanche, ou je dirais d'une tumeur digestive, ce sont les mêmes pathologies, les mêmes patients, les soins sont les mêmes. Nous avons des services de réanimation, comme dans le public, et nous avons des services de soins continus, comme dans le public, et également, bien sûr, la psychiatrie, nous sommes présents.
La différence, c'est quoi la différence? C'est que c'est gratuit dans le public et c'est pas gratuit dans le privé?
C'est gratuit aussi. Ce terme gratuit n'a pas de sens parce que c'est la solvabilisation des cotisations de chacun. Par contre, c'est vrai que lorsque l'on pose la question dans la rue, est-ce que c'est plus cher dans le privé que dans le public? On va dire le privé. Alors que ce n'est pas le cas, mais le patient, il va peut-être retenir ce qu'on appelle le dépassement d'honoraires, qui lui aussi est remboursé par l'incomplémentaire, et ce dépassement d'honoraires est un complément d'honoraires parce que la tarification des médecins libéraux est indécente. Je prends un exemple, un acte chirurgical simple, même s'il n'y a pas d'acte chirurgical simple, mais une appendicectomie qui est un acte courant, le chirurgien va être rémunéré 130 euros. Dans le privé, 130 euros brut, donc vous enlevez les charges sociales, vous enlevez l'assurance, il lui reste 40 euros responsabilité d'un enfant pendant 30 ans. Donc s'il n'y avait pas de complément d'honoraire, ce ne serait pas possible d'avoir une chirurgie de qualité, donc c'est fondamental. Et c'est vrai que notre volonté, c'est que ces compléments d'honoraires soient pris en charge en totalité par les complémentaires pour qu'il y ait ce qu'on appelle un reste à charge zéro.
Le plan Buzyn, là, on l'attend
On l'attend avec ouais. impatience et nous sommes, je dirais, en soutien de ce que va annoncer la ministre parce que, je le disais, ça va dans le bon sens et ça va vers un élargissement de l'ONDAM et c'est ce que nous demandons.
Ouais. Là, peut-être, en tous les cas, on l'espère pour vous, gagner son bras de fer avec Bercy, je le disais tout à l'heure. Merci beaucoup, Lamine Garbi, d'avoir été avec nous, président de la Fédération de l'hospitalisation privée, la FHP. Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler du chômage et puis de l'Allemagne qui échappe à la récession avec Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. À tout de suite.
BFM Business, le club de l'heure H.
Club de l'arrache avec Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Jean-Hervé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Deux nouvelles importantes. D'abord le chômage pour la France, légère remontée, un peu surprise, hein, mais c'est léger. Et puis là aussi c'est léger, mais ça a failli être dans le mauvais sens. C'est l'Allemagne qui évite la récession, puisque sur le dernier trimestre, c'est plus 0,1, alors que ça avait été moins 0,1 le trimestre d'avant, donc elle serait rentrée en récession technique. Enfin, en tous les cas, ça veut dire quand même que le moteur de la croissance allemande, donc de l'Europe, ne va pas très bien. Le chômage. Chômage en France, vous avez été surpris par ces petits chiffres, mes petites remontées?
Pas du tout. En réalité, il y a deux chiffres un peu contradictoires qui sont sortis dans les trois derniers jours. Le chiffre des 270 000 créations d'emplois, qui quand même est un bon chiffre et très positif. Et puis, ce chiffre, en réalité, d'un dixième, c'est... Tout ça est quand même, en plus, sera corrigé dans trois jours. Enfin, tout ça est compliqué. Moyennant quoi, il y a toujours cette difficulté quand on regarde les taux de chômage. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a des créations d'emplois, il y a des gens qui avaient abandonné, au fond, la recherche d'emploi qui reviennent. C'est vrai partout. Hein, c'est pas particulier du tout à la France. Et donc, 8,5, 8,6. Simplement, il faut maintenir d'abord l'effort. Et deuxième aspect, il y a des trucs qui vont pas. Je trouve que l'apprentissage, ça marche bien. À l'évidence, les réformes El Khomri et Pénicaud, c'est bien. Ce qui marche pas, c'est le logement. Je prends toujours cet exemple-là. Vous êtes un chômeur de longue durée qui est installé à Mantes. On propose, je sais pas, à l'Ondivisio, un job qui est exactement ça, mais vous n'avez pas dans le logement social, vous prenez pas le risque. Donc, il faut vraiment avoir sur les 200, 300, 400 000 emplois vacants, avoir une politique complètement cohérente qui permet aux gens de se sentir soutenus, se sentir accueillis, d'avoir, quand ils avaient un logement social, en conserver un. Donc, un truc plus malin que ce qui est fait aujourd'hui.
Et donc,
parce qu'il y a quand même 400 000 vraisemblablement emplois qu'on doit pouvoir récupérer en peut-être un an ou deux. Et 300 000, 400 000 emplois, ça commence à se rapprocher des 7%.
Oui, et ce qui rejoint, c'est, même si ça a un rapport et pas forcément, c'est qu'on voit le problème des étudiants là aujourd'hui, c'est que le logement, c'est très très difficile pour eux parce que plus personne ne veut les loger et qu'en plus le logement est devenu extrêmement cher. Donc il y a un problème pour les étudiants que vous connaissez bien qui n'arrivent plus à se loger en France. Et puis, sur la question du foncier, je recevais ce matin l'ambassadeur d'Allemagne. Niklaus Meyer-Landru, je lui disais, bah, tiens, bravo, parce que la Gigafactory Tesla, bah, c'est à Berlin, c'est pas chez nous. Il me dit, oui, mais chez nous, le foncier est moins cher. Donc, on voit que c'est vrai, pour aller dans votre sens, on a un vrai problème d'immobilier et de logement. Je reviens quand même sur le chômage.
Si je peux être un mot là-dessus, il y a au fond deux sujets majeurs. Il y en a un qui commence à être attaqué, c'est l'éducation, qui est quand même, qui pose problème, on s'en est maîtrisé. Et les politiques du logement qu'on mène dans notre pays, pour des raisons multiples, c'est pas la qualité du vin de Normandie qui est un type de grande qualité, mais franchement, on n'a pas du tout l'ampleur du sujet. Il y a une loi dite Élan qui
devrait...
Oui, c'est la loi, mais enfin tout ça est complètement en dehors de l'ampleur. D'une certaine manière, Blanquer a pris conscience de la difficulté du primaire et de l'école primaire quand il dit il faut qu'on commence à travailler.
Oui.
Et le logement... Et ça,
parce que le logement, que ça coûte déjà très cher, c'est des plus gros budgets.
Oui, bon, enfin bon, il faut voir où il va. Et deuxième aspect, vous souvenez, dans l'esprit du président, tout ce qui est logement immobilier foncier, c'est la rente. C'est pas, c'est pas la. Et donc il y a un vrai sujet, et je pense qu'il faut se prendre ce sujet à bras le corps pour les étudiants, pour les jeunes, pour.
Oui, en même temps, j'avais dit, chaque ministre a sa loi sur le logement, et
après, il faut arrêter les lois et s'y mettre.
Oui, c'est sans doute ça à l'esprit. Alors le chômage, qu'est-ce qui... Parce que le chômage, c'est essentiel pour Emmanuel Macron, parce que c'est les premières réformes qu'il a faites, c'est la réforme Pénicaud, c'est la réforme de l'assurance chômage. Pour lui, ça va être le marqueur de son quinquennat. S'il baisse de manière substantielle, ben ça y est, c'est en route pour la suite, pour le prochain quinquennat. Si ça baisse pas, il y a peu de chance.
Alors le chiffre quand même le plus important, c'est les créations d'emplois. En gros, il y a 100 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, tout ça. Simplement parce que ça, c'est le truc démographique, entre 100 et 150 000. Et là, il y a 270 000. Donc, création d'emplois prévue. C'est quand même ça le sujet, le marqueur. Moi, je suis plutôt optimiste. En réalité, on bénéficie des gilets jaunes, puisque c'est 17 milliards qui font qu'on a une croissance qui n'est pas de 0,1 comme fait l'Allemagne, mais c'est une croissance qui est entre 0,3 et 0,4 par trimestre et qui permet... en réalité, de faire, de créer de l'emploi. Et ce qui est très étonnant, pour nous autres économistes, et pour vous, pour tout le monde, c'est l'idée que, à croissance très faible, finalement, on crée plus d'emplois qu'on crée avec
c'est
une croissance plus forte.
C'est contraire à ce que vous nous avez appris lorsqu'on était à la fac.
Oui, on disait, sous de 1,5, il n'y a pas de création d'emplois, etc. Ben, c'est pas vrai. Alors, les emplois sont peut-être pas suffisamment qualifiés, sont peut-être pas aussi bien. Et alors, deuxième aspect, quand on regarde les chiffres d'il y a 3 jours, il y a plus de CDI qu'il y avait précédemment. C'est-à-dire, il y a quand même un mouvement de confiance. Ce qui va se passer dans les 8, 10 jours, 15 jours, va quand même beaucoup jouer sur le moral des Français. Mais il y a quand même, dans le fond, il y a plutôt un trend qui est bon. Maintenant, on va voir ce qui va se passer.
Maintenant, les Français le ressentent, en fait, chez eux.
Et puis, il ne faut pas que ça se gâte trop dans les semaines qui viennent.
Ouais. Est-ce que la réforme de l'assurance chômage, parce que lorsque j'ai interviewé Muriel Pénicaud, elle disait, mais il faut changer les comportements, il faut que les gens qui restent au chômage, eh ben non, il faut qu'ils trouvent un job, donc voilà, c'est un changement de comportement parce que certains s'alertent, comme Laurent Berger ici même, qui disait mais ça va mettre un million et demi de personnes dans une immense difficulté. Est-ce qu'elle a raison, Muriel Pénicaud, en disant c'est sûr, il faut changer certains comportements, et en même temps, est-ce qu'ils mettent pas la charrue un peu avant les bœufs? C'est mon éternelle question et j'ai pas encore la réponse.
Non, je crois qu'ils ont raison de le faire. Après, tout est une question de calibrage.
Mais maintenant, il faut peut-être attendre que la formation, ça marche, que l'apprentissage, ça marche.
Oui, enfin, tout le monde sait que, par exemple, limiter le chômage, des mieux rémunérés au chômage, c'est pas un crime contre l'humanité, puisqu'on sait qu'ils trouvent assez facilement un emploi. Donc, il y a quand même c'est vrai qu'il y a une espèce de communauté, tout le monde le sait. Ça veut pas dire que ça résout. Alors, après ça, je les trouve trop durs sur les tout petits salaires et les affaires.
Oui, c'est surtout là, je pense à les cadres.
C'est là-dessus.
C'est très tendu comme
marché. C'est quand même très tendu. Et deuxième aspect, je trouve, alors après, ces espèces de tabous qu'on met en France, c'est 24 mois, si c'était 23 mois ou 25 mois, le monde change pas. Le monde change pas. On a un système quand même d'assurance chômage qui est très solide. Il y a d'autres. C'est difficile de juger cette loi dans son intégralité. Je la trouve un peu dure sur un certain nombre de sujets. Et je trouve qu'ils ont raison sur, notamment, j'allais dire, limiter les rémunérations des chômeurs les mieux payés.
D'accord, là-dessus. L'Allemagne, est-ce que vous dites ouf aujourd'hui? Parce que c'était quand même important. Si l'Allemagne rentrait en récession, même technique, même très légèrement, ça aurait été quand même peut-être un petit coup dur pour l'Europe. À un moment, elle n'en a pas forcément besoin. Donc alors, là, est-ce que vous vous dites ouf?
Non. Non, non. Je me dis pas ouf. Je me dis que dans cette affaire de ralentissement très significatif de l'économie allemande, il y a des raisons objectives qui vont pas disparaître, qui sont leur démographie, qui sont sur des secteurs qui sont très 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 chahutés. Ils ont 11% de leur PIB qui est dans l'automobile. Je veux dire, l'automobile, ça va quand même chahuter un peu partout, chez nous aussi, mais tout particulièrement. Ils ont un commerce avec les États-Unis, avec la Chine, mais avec la Chine, qui s'est beaucoup ralenti. Ne pas confondre, erreur qui est parfois faite, l'idée que le ralentissement du commerce mondial est lié uniquement au comportement de Trump. Pas du tout. Ça fait 4 ans que ça s'est ralenti. C'est le modèle de croissance de la Chine qui est en train de se modifier. Moins d'importations, moins d'exportations. Et donc, tout ça ne va pas disparaître. Donc l'Allemagne ne sera pas le leader.
Mais est-ce qu'il faut, la question que je posais ce matin,
deuxième
mais...
aspect, oui. Il y a du bon. Je veux dire, on a reproché, à juste titre, à l'Allemagne, on dit que vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 3% en déficit. Pas bien, sanction. Mais on ne dit pas que c'est symétrique. C'est qu'on n'a pas le droit d'avoir des excédents commerciaux et ou des excédents budgétaires trop importants. Donc, tout le monde sait qu'il faut que l'Allemagne, à un moment, relâche un peu ses politiques budgétaires, tout le monde sait qu'il faut qu'ils participent un peu plus à l'effort d'investissement en Europe. Je dois dire que c'est pas forcément mauvais qu'ils se rendent compte que la vie a été formidable pendant 15 ans. Elle le sera vraisemblablement un tout petit peu plus difficile dans les 15 ans qui viennent.
Ouais. Juste un dernier point, oui, non, et la raison qui a raison. Ce matin, toujours l'ambassadeur d'Allemagne a vraiment claqué la porte aux déclarations d'Emmanuel Macron en disant que la ligne des 3%, la règle des 3%, c'était d'un autre siècle, qu'il y avait des énormes besoins d'investissement, etc. Et tranquillement répondu, Niklas Meyer-Landru, en disant oui, mais on peut très bien investir sans s'endetter. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de modifier cette règle des 3%. Est-ce que vous soutenez Emmanuel Macron ou les Allemands plutôt ?
C'est un immense ambassadeur, c'est un immense président, mais l'immense ambassadeur n'est pas un économiste.
Non, diplomate. Non, il ne le revendique pas. Il était conseiller d'Angela Merkel, il connaît bien. Quand même.
Cette règle de 3%, tous ces chiffres tabous. On risque, Edwige, d'avoir dans les 2 ou 3 ans qui viennent une crise mondiale. Qui ira regarder si on a fait 2,9 ou 3,1? Évidemment qu'il faut surtout que l'argent dépensé et que l'argent éventuellement dépensé au-delà des recettes soit utilisé de manière effective pour l'investissement. L'Allemagne aujourd'hui n'investit pas assez. Donc, la France non plus. Donc, ne soyons pas fétichistes sur les chiffres. J'ai jamais été fétichiste. La règle de 3%, c'est nous qui l'avons inventée. Elle a été inventée sur un coin de table. On aurait pu mettre 2,9 ou 3,1.
Voilà, d'accord. On a cru qu'on allait pouvoir finir optimiste, mais finalement, il y a une grande crise mondiale qui nous menace. Vous reviendrez nous en parler.
Si jamais.
Mais enfin bon. Jean-Hervé Lorenzi, merci d'avoir été avec nous, le président du Cercle des économistes. Dans un instant, on parlera du marché de la pub. On parlera de transmission, de bouleversement. C'est un secteur qui est évidemment en plein bouleversement à cause du digital. Mais là, c'est un bouleversement peut-être à la tête de BTC avec Mercedes Serra, la star de la pub, qui transmet en douceur et en partie à Bertil Toledano. Elles sont toutes les deux en studio avec nous dans un instant.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Le miracle d'avoir deux femmes dirigeantes en studio avec nous. Mercedes Serra, bonjour.
Bonjour.
Cofondatrice de BETC, qui est l'un des premiers réseaux français. Et puis donc, vous cédez en partie la main à Bertil Toledano, que je salue. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. On verra une transmission entre femmes, plus sérieusement, pourquoi cette transmission. Et puis surtout, on viendra sur votre marché qui est complètement en bouleversement. Ça se voit bien, ça se voit aussi dans les chiffres. Pour l'instant, c'est le rappel des titres, Thomas Asportal.
Et le chômage qui a légèrement progressé au troisième trimestre de 0,1 point. 8,6% de la population active française hors Mayotte. Alors cette légère hausse n'était pas vraiment attendue après plusieurs trimestres de baisse d'affilée. La France compte donc 10 000 nouveaux chômeurs. L'autre chiffre qui était particulièrement attendu aujourd'hui, c'est la croissance allemande au troisième trimestre. Et l'Allemagne échappe de justesse à la récession, plus 0,1% de croissance. Et c'est avant tout grâce à la consommation. L'Allemagne est donc repassée dans le vert après la contraction du deuxième trimestre qui a été revue à la hausse, à moins 0,2% donc au deuxième trimestre au lieu de moins 0,1%. À nouveau des indicateurs mal orientés pour l'économie chinoise. La production production industrielle n'a progressé que de 4,7% en octobre, très loin des estimations. Les ventes au détail ont augmenté au rythme le plus faible depuis 16 ans. Jour J pour Thierry Breton, le candidat de la France pour la Commission européenne, est entendu cet après-midi par les députés européens après être passé de justesse avant-hier sur sa déclaration d'intérêt financier. Vous pourrez suivre en direct et en intégralité l'audition de Thierry Breton sur notre site bfmbusiness.com. Et puis pour finir, dans l'actualité des entreprises, EDF est finalement obligé de revoir à la baisse ses objectifs de production nucléaire pour 2019 après le séisme en Ardèche qui a affecté donc ses réacteurs sur le site de Cruas. EDF espérait un redémarrage dès demain, mais il se fera finalement progressivement dans la première quinzaine de décembre. BFM Business, il est midi 33. Je vous redonne le CAC à la mi-journée. Le CAC 40 est à l'équilibre à 5907 points. L'euro-dollar à la mi-journée recule très légèrement de 0,13%. Un euro s'échange pour 1,0996 $.
Merci Thomas. Dans un instant, donc, deux stars de la pub. Mercedes Serra, Bertil Toledano. On se retrouve tout de suite et juste après, une page de pub.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Nos invités, EES, il faut le souligner en studio, c'est deux stars de la pub. Mercedes Serra, cofondatrice de PETC. Mercedes Serra, encore merci d'être avec nous. Et puis, vous avez voulu venir maintenant parce que vous venez de transmettre en partie, la côté France de PETC, de vos activités à Bertil Toledano. Bonjour, que je salue.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous avez une ascension fulgurante au sein de la publicité. On va voir ça tout de suite. Juste d'abord, une femme qui transmet... En partie, hein, parce que maintenant vous allez, d'abord vous êtes cofondatrice, bien sûr, vous êtes le E de BETC, et puis vous allez vous occuper de plus de l'international, mais c'est donc une forme de transmission. Et des clients, très accessoirement. Une femme à une femme, c'est assez rare quand même. Ça mérite un petit coup de chapeau.
C'est extrêmement rare, mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en haut. Donc, chez BETC, il y a une stratégie de l'égalité, de la parité, elle est réelle. D'ailleurs, les gens qui viennent chez nous disent « Ah, c'est une agence de femmes ». Non, ce n'est pas une agence de femmes, c'est une vraie agence mixte. Et quand vous avez la parité, c'est quelque chose de très rare. Donc, en effet, c'est rare parce que c'est rare. Ouais. Et après, il se trouve que je crois que les transmissions ne se font pas assez tôt et assez fortement. Et donc, moi, je suis tellement contente de pouvoir transmettre à quelqu'un dont je crois que les valeurs sont très BETC.
Eh bien, dites donc, avec ça, Bertil Toledano, pas facile. Vous avez à peine 40 ans, un peu plus, hein, quand même.
Un peu plus.
Oui, mais enfin, très peu. Donc, c'est pour vous, c'est un défi quand même de reprendre un flambeau, ce flambeau-là, encore une fois, sur la partie France.
C'est un énorme défi. J'ai envie de vous dire, c'est un défi qui a commencé depuis 8 ans, hein, quand même. Moi, j'arrivais chez BETC il y a 8 ans. Cette agence est une énorme chance, dans le sens où c'est un défi parce que cette agence, elle est à la fois stratégique, elle est à la fois créative, elle est à la fois un collectif de talents, ce qui n'existe plus beaucoup.
Ça fait un peu pub, ça, non ?
Non. Non, parce qu'en fait, c'est très rare, en fait, que les gens acceptent de partager quelque chose en ce moment, et de partager une histoire, et de partager un succès. Et en fait, cette agence, elle s'est construite beaucoup sur le talent, avec une croyance forte.
Ah ben, ça a été la marque de fabrique de BETC. Vous l'avez créé, Mercedes Serra, avec Rémi Babinet.
Et donc, Stéphane Xiberas. Ouais. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui participent au talent de cette agence. Et en fait, moi, la spécificité, et un des premiers mots que m'a dit Mercedes quand je suis arrivée dans l'agence, c'est qu'elle m'a dit les talents, c'est du développement. Moi, je venais d'une culture anglo-saxonne où petit à petit...
Sachi,
oui. Puis après BBDO, oui, j'ai fait quand même 12 ans d'Omnicom. Oui. Et où on considérait qu'en fait, les talents, c'était un coût. Et qu'on pouvait prendre des gens toujours plus jeunes, toujours un peu moins, toujours... Et donc, c'est une stratégie de rentabilité. Et il faut comprendre, l'agence BETC, elle s'est structurée autour d'une stratégie qui est une stratégie de développement. On croit aux talents et on croit au développement.
Une question humaine, c'est peut-être une aventure humaine, peut-être plus que dans des grands groupes internationaux, non ?
Sans doute. Et puis une aventure autour de la qualité. C'est-à-dire qu'avec des mots très très simples, c'est que notre métier, on croit qu'on le fait bien dans la qualité. Et ça, c'est pas facile finalement la qualité, parce que ça prend du temps. Ça demande de dire la vérité aux gens. Ça demande de travailler pour de vrai avec ses clients, de travailler dans la confiance. Donc tout ça, c'est des valeurs qui sont des valeurs extrêmement pérennes finalement, et c'est ça qui est chouette dans notre histoire, c'est que c'est...
Mercedes Serra, pourquoi vous avez considéré qu'il était temps justement de transmettre en partie sur la France à quelqu'un qui est donc encore jeune?
Parce que je pense qu'à un moment donné...
Il y a beaucoup de dirigeants en ce moment, il y a beaucoup de transmissions, on s'interroge beaucoup, il y a une période.
Oui, enfin, il y a beaucoup de transmissions, il n'y a pas beaucoup de transmissions claires. Moi, je pensais qu'elle pouvait être claire, parce que d'abord, parce que le temps l'a construit. Ce n'est pas une transmission artificielle, parce que je suis sûre du talent de Bertille, et je pense qu'elle a représenté BETC formidablement. Et ça, j'y crois énormément. Et je crois aussi que, pour moi, la meilleure progression, c'est ça. C'est d'avoir identifié quelqu'un dont je pense qu'il a au moins mon talent.
Vous parlez de la créativité, j'ai juste une petite... Pas une petite question, on est dans un univers comme ça, ça nous amènera au secteur de la pub, du digital. Je crois que pour la première fois, maintenant, c'est plus de 50% hein, le digital aujourd'hui dans les...
Alors, moi, en France, sur le marché français. J'aime pas les confusions.
Oui, alors allez-y.
On mélange tout dans le digital. C'est un peu comme si vous mélangez le rédactionnel dans les journaux, la pub dans les journaux. Il faut savoir que le digital qui a changé le monde... Non, je vais jusqu'au bout. Le digital qui a changé beaucoup de choses, il a aussi changer les modes de commerce. Donc, tout ce que vous trouvez qui sont des magasins dans le digital, vous considérez le PLV dans le digital comme de la pub, pas de la pub, c'est très compliqué. Et je pense qu'on a une vision un peu trop confusante. Ça devrait vous faire plaisir, mais globalement, nous, les gens comme Amazon, comme Apple, les grands finalement du digital, ils ont compris qu'au construire leur marque, il faut utiliser les grands médias que sont la pub, l'affichage. Et ça, ils sont devenus les plus gros investisseurs dans ces univers-là. Donc je pense qu'il faut comprendre les changements du monde, mais qu'on a un peu embrouillé, nous, ce que l'on sait. Et ce qui fait la culture de BETC, c'est la foi que ce sont les idées qui changent le monde. Et même dans les data, quand vous n'avez pas d'éléments de compréhension profonde des consommateurs, des éléments de compréhension des idées pour modifier, ça ne sert à rien.
D'accord, alors ce qui fait que lorsqu'on dit que pour la première fois en 2019, au niveau mondial, les investissements publicitaires digitaux vont être majoritaires, en représentant 50,1% de l'ensemble du marché, d'après e-marketeur, c'est une
erreur. Non, on n'a pas tort, on n'a pas une analyse subtile. Okay. Par exemple, lorsque vous prenez l'Asie, la Chine, ils n'ont comme mode que... les médias sur le digital. Donc, en fait, ils font des vidéos, ce que nous, on appelait les films publicitaires télé, dans le digital. Donc, ça, c'est l'usage d'un média nouveau et qui est réel dans certains pays.
Pour vous, ça va être un défi, malgré tout. Enfin, c'est un défi aujourd'hui, notamment sur la France.
Oui, bien sûr.
Patrice Toledano.
Bien sûr, c'est un défi, mais j'ai envie de vous dire, ça a déjà largement commencé. Après, ça révolutionne tout, ça révolutionne notre façon de penser les parcours clients, notre façon de penser où sont les gens, à quel moment. Mais j'ai envie de vous dire, le défi reste le même, c'est que pour émerger, il va falloir une idée. Pour émerger, il faut avoir quelque chose à dire. Parce
que sinon... Qu'est-ce que vous pensez par rapport à Google et Facebook qui, sur le marché français, ils ont à peu près trois quarts du marché publicitaire digital, numérique, ce que vous voulez. Pour vous, c'est, je veux dire, ça change complètement la donne, non ?
Pas que pour nous, pour vous aussi.
Oui, mais bien sûr, pour nous, mais on est sur un sujet. Mais on peut inverser, hein, si
oui,
vous voulez.
On est sur un sujet extrêmement complexe de domination de l'information dans le monde. Exactement.
Et du traitement. Et après, il faut se dire aussi qu'il y a des mouvements, puis il y a des mouvements qui reviennent. Donc, il faut faire attention. Moi, j'ai l'impression que ce que ça change énormément, c'est finalement la façon de concevoir les choses. Donc il faut penser des écosystèmes.
C'est pour ça que je vous pose la question, parce que c'est vous qui êtes chargé un peu de concevoir, justement, pour vos clients.
Bien sûr, mais pour bien penser à un écosystème, il faut bien penser à une problématique business d'abord, parce que nous, on ne fait pas de la création, j'entends beaucoup, quand on parle de création, on ne fait pas de la création ex nihilo, on fait de la création sous mandat, avec un objectif qui est de résoudre un problème business d'un de nos clients. Et à partir de là, il faut trouver les meilleures solutions pour le résoudre. Et on le résout à l'intérieur d'un écosystème. Mais de croire que les systèmes vont penser à la place des stratèges et des problématiques business des clients, ça c'est faux. Et je vais vous dire, plus ça va, et plus il faut être face à un client. Aujourd'hui, la grande différence de notre métier, c'est qu'aujourd'hui, vous n'allez plus voir un client si vous ne connaissez pas sa problématique business. Si vous ne savez pas exactement où il en est, de ses problèmes de part de marché, de ses problèmes d'innovation, de ses problèmes de salariés, emmener tout le monde. Regardez EDF, regardez ce qui est en train de se passer. Là, vous en parliez à l'instant sur la filière nucléaire. Mais c'est très important ce qui est en train de se passer sur la filière nucléaire. Si on comprend pas ça, qu'est-ce qui se passe derrière? Vous avez des étudiants, par exemple, à Centrale, truc, qui vont plus choisir la filière nucléaire. Est-ce qu'on est sûr qu'on veut ça? Est-ce qu'on est sûr qu'on veut ça demain? Parce que est-ce qu'on est sûr que ces étudiants, on n'en a pas besoin pour résoudre les problèmes des déchets nucléaires? Donc, c'est, les choses prennent du temps, ça demande une vision long terme et ça demande une vraie vision de business et du développement. Parce que sinon, c'est que des outils, sinon, c'est que du blabla, et sinon, notre métier, ça peut être que de la pollution.
Ouais, très intéressant, Bertrand Toledano. Pour BETC, on l'a dit au départ, ce qui a fait le succès de BETC, c'est vraiment la créativité. Vous avez eu des
idées. Mais la créativité... La créativité, parce que les gens comprennent assez peu notre métier, passent pas assez de temps à venir à l'agence, venez passer des stages, j'adore cette idée-là. La créativité stratégique d'abord.
Bien sûr.
C'est-à-dire,
vous trouvez une réponse à la stratégie du business.
Et notre métier, il est assez simple. C'est pour ça que, en fait, dans ce monde où on complique les choses, nous, on veut revenir et on n'a jamais quitté le cœur de notre métier. C'est quoi le cœur de notre métier? Comprendre les gens. Pour avoir les éléments de persuasion nécessaires pour faire levier sur un business ou pour faire levier sur un comportement, parce qu'on ne fait pas que vendre, on change aussi des comportements, on fait beaucoup de choses pour permettre à certains comportements de changer. Tout ça, ça implique une compréhension profonde des gens, une capacité de comprendre les leviers et une capacité de les traduire pour que les gens les entendent. Et c'est difficile.
C'est un métier difficile. En fait, la création, ce que ça a de formidable, c'est quand c'est à propos, quand c'est stratégique, ça peut transformer le monde. C'est pas la data qui va transformer le monde derrière, c'est la création qui va transformer le monde. Parce que on passe de l'intelligible au sensible. Et quand vous dites quelque chose que les gens ont fait en tête, qu'ils ressentent profondément, qu'il y a ce qu'on appelle un insight en anglais, mais en fait qu'il y a une vérité des gens, un truc qu'ils ont en tête mais qu'ils n'ont jamais exprimé, et que vous le dites de façon sensible, à ce moment-là, vous faites un carton, c'est-à-dire que tout d'un coup, les gens se retrouvent autour de votre parole, ils se retrouvent dans la relation à la marque, ils se retrouvent au milieu d'un petit bout un peu gracieux dans la façon dont on fait du commerce.
Oui. Vous avez fait, on s'en souvient, Mercedes Serra, vous avez fait la publicité d'Evian avec les fameux petits bébés. Vous avez fait pour Air France avec le ciel, magnifique ciel derrière.
Oui.
On peut en citer plein. En même temps, est-ce que vous n'êtes pas un peu rattrapé par le gong? C'est-à-dire que là, vous avez vendu du rêve, c'était des publicités absolument incroyables.
C'était déjà rationnel.
Oui, mais attendez, je finis sur la santé, sur le rêve. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit le niveau de pollution de la planète, notamment avec les transports aériens, etc., est-ce que vous ne dites pas de temps en temps, vous vendez du rêve, que finalement.
On ne vend pas du rêve, on vend des choses qui sont plus importantes que ça. Et je pense que, bien sûr, le monde est passionnant aujourd'hui. C'est-à-dire que quand nous, on parle avec les consommateurs, avec le public, avec les gens, la relation à la consommation, elle est compliquée.
Oui.
Mais la relation à la consommation, il faut qu'elle continue à exister. Donc comment on la rend plus intéressante, plus intense? Donc on ne vendait pas du rêve uniquement avec Evian. Le rêve ne fait pas vendre. Il faut plus de rationnel que
ça. Non, mais quand on dit que ce n'est que la santé, que Danone fait que de la santé, on est bien d'accord que non, vous savez bien.
Danone fait beaucoup de choses pour la santé. Et vous le savez bien, et vous pouvez continuer à manger du yogourt et à boire de l'eau d'Evian, ça va très bien se passer pour nous tous. Et on va régler des problèmes au fur et à mesure. Mais s'il y a aussi un conformisme à l'envers, et il faut éviter ça. Conformisme à l'envers, c'est nous n'allons pas du jour au lendemain arrêter tous de consommer. Nous n'allons pas dire à nos amis africains c'est fini l'énergie, vous savez, nous on en a,
ça pollue,
donc on
ça
arrête,
pollue,
ça pollue.
Arrêter, bien sûr.
Donc on est tous en schéma de transition. Et ne pensez pas que les gens ne le savent pas. Ils sont beaucoup plus subtils que ça. Et nous aussi, on progresse et on avance avec ça, parce que notre métier, c'est toujours de tenir compte de ça. Donc nous, on n'est pas soucieux. Au contraire, on pense que la communication, ou on pense que les gens ont un rôle aujourd'hui dans la communication encore plus intéressant qu'avant, puisque consommer moins dans certains endroits, ça reste intéressant.
Ouais.
Donc il faut assumer.
Vous avez raison, nous sommes tous en schéma de transition et c'est vrai, c'est incroyablement vrai aujourd'hui. Bertil Toledano.
Je crois, en fait, le vrai propos, c'est d'orienter. Nous, on a un rôle d'orientation. La communication, elle est là pour orienter la marque. Ce qui est marquant aujourd'hui, en fait, surtout, c'est ce qu'on demande aux marques, c'est d'avoir une vision de ce qu'elles font. Mmh. D'avoir une idée sur ce qu'elles font. De dire, voilà ce que je fais, suivez-moi. Mais c'est hyper important de faire ça. Tous les matins, on se lève tous, on va travailler. Moi, il y a des gens qui viennent travailler avec nous chez BETC. Et il faut qu'ils puissent se dire, voilà ce qu'on fait ensemble. Suivons-les, allons-y, on a envie. Donc, c'est ça le rôle des marques aujourd'hui. Et donc, les questions que les gens posent aux marques aujourd'hui, c'est des questions essentielles. C'est finalement, à quoi ça sert? Qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce qu'on fabrique ensemble? Et qu'est-ce que vous pouvez proposer à la société? On est tous, il faut pas avoir de jugement. Je pense qu'on est tous dans une stratégie de progrès. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on dit on est tous en transformation, c'est parce qu'on est tous en devoir d'être dans une stratégie de progrès.
Un point, je reste juste un instant sur la publicité, c'est l'image de la femme, puisque vous êtes deux femmes. Vous essayez de la faire changer. On voit que c'est pas encore, ça reste encore la belle fille qui est en train de faire vendre une voiture. Un peu moins, je vous l'accorde, Mercedes Serra. Oui. Est-ce que quand même, il y a une marge de manœuvre?
De toute façon, c'est la question que je déteste, parce qu'en fait, vous savez pourquoi je la déteste? Parce que je suis très féministe, oui. Et que la vérité, et que j'aime les faits. Et que vous savez que la publicité, c'est la seule chose que vous contrôlez très fort en France. Donc, vous n'avez pas beaucoup de bêtises. Les seules bêtises que vous avez vues, ce sont des bêtises souvent de créateurs qui ne se prennent pas pour des publicitaires. Parce que nous passons dans une association qui s'appelle l'ARPP, qui nous surveille sans arrêt. Et on est d'accord avec ça. La deuxième chose, c'est que les marques, elles ont fait des campagnes, hein, les grandes marques du monde, qui vont plutôt aider les femmes, plus parfois que les politiques, etc. Quand vous prenez Procter et que vous regardez tout le travail qui a été fait pour le partage des tâches, l'argent qu'ils ont dépensé pour ça, il y a des moments où il faut être honnête et dire aussi merci. Oui. En revanche, cette problématique de l'image des femmes, on la surveille de très près, on est content de pouvoir la surveiller, on est content de travailler avec le CSA et on aimerait bien qu'elle soit surveillée de partout, Edwige, de partout.
Oui, là, vous avez raison.
Et je rebondis sur ce que vous venez de dire pour dire que les constructeurs automobiles aussi font attention. L'image des femmes dans l'automobile, c'est plus vrai. C'est moi, je m'occupe de PSA, de Peugeot et de Citroën.
Carlos Tavares était mon invité là, il y a encore quelques jours.
Voilà. Et si vous regardez les grandes campagnes de Citroën, on est très inspiré par les gens, proche des gens. Et je pense qu'on essaye d'être plus sensible que ça aux questions féminines. Donc, je pense qu'en fait, là-dessus, je voudrais dire un mot, c'est que nous, on n'est pas exemple, et bien sûr qu'il faut qu'on fasse attention, et bien sûr qu'on modifie beaucoup les choses.
Il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui, on est d'accord.
Enfin, bien sûr, mais parce que
ça a changé.
On s'est quand même beaucoup battu.
Battu. Et on se bat, en fait, beaucoup plus globalement pour l'intelligence des gens, pour parler à l'intelligence des gens. Et donc, je crois que tout ça, c'est en train de changer. Aujourd'hui, on ne parle plus à des consommateurs, on parle à des gens. Ils sont parfois consommateurs, parfois citoyens, parfois salariés, mais c'est les mêmes gens.
Et de plus en plus acteurs, en plus.
Oui,
Et faire le pari, c'est comme les audiences de télé, faire le pari que, en gros, vous pouvez plutôt le faire avec intelligence qu'avec bêtise, c'est pas mal.
Ça a l'air. On ne réussit pas toujours, mais
c'est facile. C'est pas facile, parce que ce que je peux vous dire, c'est que c'est un combat de tous les jours, parce que de temps en temps, on sortirait bien des choses médiocres, ça serait plus facile.
Juste une petite question, mais ça secoue beaucoup votre secteur et on en parle beaucoup dans le milieu de la communication. C'est pas du tout chez vous, évidemment, c'est chez un concurrent, des questions de harcèlement sexuel. Qu'est-ce que vous faites chez BETC, justement, pour éviter ce genre de problématiques?
C'est la même chose que partout, j'imagine.
Oui, mais c'est-à-dire que BETC, je vous
non, mais la même chose que partout, c'est que, en tout cas, je ne vais pas te donner un exemple, c'est que nous n'avons jamais accepté la moindre d'attitude ou problématique. Donc, les personnes sont...
C'est du zéro harcèlement.
Il peut y avoir quelque chose, mais ça ne peut pas durer dès que l'on le sait. Voilà. Donc, et on est un peu intransigeant. Moi, je suis un peu nerveuse sur le sujet. On est un peu intransigeant parce que... Et c'est pas juste un problématique de harcèlement. Moi, j'ai souvent été soumise à des ironies, des choses comme ça. On essaie d'éviter tout ça.
Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on travaille dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes. Nous, on a la chance de travailler avec Rémi Babinet, avec Stéphane Xibaras, avec beaucoup d'hommes intelligents et fins et qui parlent plutôt à l'intelligence des femmes et qui sont pas du tout dans ce type de reproches aussi. Il faut le souligner parce qu'on peut pas donner l'impression que tous les hommes sont dans ce type de caricature.
De toute façon, c'est pas possible avec retraite de femmes.
Une question. Bon, pourquoi pas.
On surveille de très près.
Cela dit, je recevais un petit mot très rapide. C'est qui le patron? Je sais pas si. Oui. Formidable communicant, Nicolas Chaban, un succès incroyable. Et il disait. Moi, j'ai réussi grâce aux consommateurs, mais il n'y a pas de pub, il n'y a pas de marketing. Alors, il fait lui-même sa propre pub, très bien, mais il n'y a pas de pub. Ça vous inspire quoi?
C'est un grand homme de marketing.
Je pense qu'il est un grand publicitaire.
C'est très grand.
C'est un très bon publicitaire.
Je pense qu'il est proche d'un Leclerc ou de. Et ce sont des grands communicants. Ouais. Communicants, ça veut dire comprendre qu'est-ce qui est important pour les gens. Après, il faut être honnête, hein. C'est pas parce que vous achetez au fermier du coin qu'il n'a pas mis des pesticides, hein. Donc, il faut être honnête. Donc, mais lui aussi, il a fait beaucoup de communication et c'est bien.
Alors, en fait, publicité, c'est rendre public dans la cité. Mmh. Je pense qu'il a fait beaucoup de publicité. Après, il n'est peut-être pas passé par une agence de publicité. Il est peut-être sa propre agence de publicité.
Il a compris
très bien les choses. Il l'a très bien packagé. Il a fait ça de façon très intelligente et c'est formidable.
Nous, on respecte.
Il y a 40 secondes pour un sujet important dont vous reviendrez nous voir, évidemment. C'est aujourd'hui, les grands réseaux, on a l'impression que les agences de pub demain, elles vont s'appeler EY. Des grands réseaux internationaux de consulting, de data, et qu'il n'y aura plus vraiment d'agence de pub. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Là, on est très simple. Nous, on est quand même.
C'est gros, pas vaste.
Non, mais je vais parler de BETC. Parce qu'on a voulu BETC, pas pour rien. Mais globalement, nous n'avons pas eu de problème de développement. Et je ne pense pas que nous en aurons, pour une raison toute simple, c'est qu'on a besoin de gens qui sachent parler de la communication, faire de la communication. Je pense que c'est un métier différent. Il est très spécifique. Oui. Donc après, les grands consultants peuvent racheter des agences comme nous. Pourquoi pas? C'est pas idiot. Hein, mais en tout cas, il faudra acheter des gens comme nous qui font ce métier-là.
Ouais,
parce que ce métier est spécifique.
La création,
pas d'inquiétude pour le futur.
La création, c'est une culture. Donc en fait, ça s'acquiert pas comme ça. Et du coup.
Et c'est pas de la data.
Voilà.
Merci beaucoup.
Et la
Merci
data,
beaucoup.
C'est mieux avec des idées.
Voilà, décidément, là, on est formule choc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Bertil Toledano. Et puis, merci beaucoup, Mercedes.
Merci.
Era. Donc, tout ça, c'est BETC. Bonne chance. Voilà, c'est la fin de l'orage, donc bien sûr. On se retrouve dimanche BFM Politique. Notre invité sur BFM TV, ça sera Bruno Le Maire. Et puis nous, on se retrouve lundi matin en direct. Bonne journée.